Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavro dromit se Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, Buna Ziwa, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à Bucarest en Roumanie, où RFI Romania, la filiale de RFI en langue roumaine, fête ses 25 ans. En 25 ans, la Roumanie a beaucoup changé. Témoin, Bucarest, où le gris marronasse qui enveloppait la capitale de feu Nicolae et Ceausescu, a laissé la place à une ville de plus en plus pimpante et lumineuse, ouverte sur l'Europe et le monde, une ville qui est en train de devenir tendance pour les jeunes urbains européens de plus en plus nombreux à venir passer un week-end de découverte et de détente festive dans les rues, les bars et les boîtes de la capitale roumaine. En 25 ans, RFI Romania a elle aussi beaucoup évolué. La petite radio est devenue un média de référence dans le paysage audiovisuel de la Roumanie et l'on peut dire qu'elle a accompagné le changement de ce pays. Je vous présente les invités qui ont bien voulu nous rejoindre au centre Arcub, Anul Gabroveni, Luca Nicolescu, bonjour, buna ziua.
Bonjour Daniel.
Vous, les auditeurs de RFI vous connaissent évidemment très bien. Ils vous connaissent en tant que correspondant de RFI en français à Bucarest, mais vous êtes aussi le rédacteur en chef de RFI Romania, et ce depuis un certain temps déjà.
Oui, depuis une quinzaine d'années déjà. En Roumanie, on pourrait dire, en Roumanie, un pays qui évolue très vite, on pourrait dire que je suis déjà un dinosaure.
Mireille Brahan, bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant notamment du journal Le Monde, mais pas seulement. Et vous êtes aussi écrivain. Votre dernier livre, Les Roumains, est paru aux éditions Les Ateliers Henri Dougier. C'est une bonne façon de découvrir qui sont les Roumains aujourd'hui. Et on ne les connaît pas tant que ça, les Roumains. Matei Vichniec, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes journaliste à RFI, mais à Paris, et pourtant en langue roumaine, car il y a une interaction entre RFI Paris et RFI Bucarest, en deux mots.
Je suis le plus âgé dans la rédaction. J'ai commencé à travailler pour la RFI en 90, et depuis le temps est passé, mais il ne faut pas oublier, RFI Roumanie existait même, RFI existait même avant la
rédaction
en langue roumaine.
Alors si Luca Nicolescu est un dinosaure, il faudrait inventer un autre mot pour vous, si j'ai bien compris. Et puis, deux jeunes, Oana Kalen, bonjour, buna ziua.
Bonjour Daniel.
Alors vous avez l'âge de RFI pratiquement.
J'ai 25 ans, je suis née à quelques jours avant la révolution, et aussi je coïncide aussi avec le début de l'histoire de RFI. Et je commence par dire bon anniversaire.
Et Yulia Barkayas, bonjour.
Bonjour.
Toute jeune aussi, et qui travaille à la Chambre de commerce franco-roumaine. Alors, Luca Nicolescu, comment est née RFI Romania, qui au début ne s'appelle pas RFI Romania? Ça s'est passé comment, la naissance de ce qui est aujourd'hui RFI Romania, et il y a 25 ans, pratiquement jour pour jour?
Voilà, pratiquement jour pour jour. Au début, il s'appelait Radio Delta. Parce que Delta, comme la lettre de l'alphabet grec, elle a été la quatrième radio libre à être créée en Roumanie après la chute de Nicolae Ceausescu. Il y a eu plusieurs radios à l'époque, la plupart d'entre elles d'influence française. Pourquoi ? Parce que la France, avec la révolution de 1989, a découvert ou a redécouvert qu'il y avait un pays francophone en Europe de l'Est. Donc il y a eu un énorme élan de solidarité à l'époque, et dans la foulée, la direction de l'époque de RFI, de Radio France Internationale, a décidé de créer une radio école ici à Bucarest pour les gens qui auraient voulu devenir journalistes. Ça a fonctionné pendant quelques années comme une petite radio école qui faisait ses programmes, mais qui aussi retransmettait les programmes de RFI en français et le service roumain en langue roumaine de RFI.
Évidemment, du temps de Nicolae Ceausescu, il y avait des écoles de journalisme, mais le jour où Nicolae Ceausescu est tombé, ça n'avait plus de sens. Ces écoles de journalisme, c'était quand même des écoles liées.
Une école de journalisme qui était l'école du parti communiste. C'était une école de cadre du parti communiste. Donc, le journalisme de l'époque n'avait pas grand-chose en commun avec le journalisme réel.
Alors, cette radio, on est aujourd'hui là dans des locaux magnifiques d'un centre culturel récemment rénové qui, je crois, était un caravansérail, hein, si je ne dis pas trop de bêtises, c'est un peu ça.
C'était un caravansérail à partir du fin 18e, début 19e siècle.
Et aujourd'hui, donc, ce centre Arcub nous accueille. Mais les débuts de Radio Delta, c'était pas dans des locaux magnifiques, c'était situé où ça ?
C'était au 11e étage d'une cité universitaire. Et souvent, on n'avait pas d'ascenseur. Parfois, on n'avait pas d'eau courante parce qu'il y avait des problèmes pour que l'eau monte jusqu'au 11e étage. Nous avons quelques expériences. Donc, une avec un homme politique français, Jacques Toubon, qu'on a fait monter dans l'ascenseur qui s'est arrêté au mauvais étage. Et il était difficile de sortir. Et je ne sais pas lui, mais sa garde-corps était assez inquiétée. On était au début des années 90. Où c'était, bon, la Roumanie était pas aussi développée qu'aujourd'hui.
Bien évidemment, je crois que même l'histoire, c'est qu'il n'était pas tenté de monter à pied, il avait refusé, voilà. Si je me souviens bien. Et donc, racontez-nous toute l'histoire, je crois que...
L'histoire, elle est un peu plus longue, c'est-à-dire qu'on était dans l'ascenseur devait s'arrêter, aurait dû s'arrêter au 11e étage, mais normalement, il ne s'arrêtait pas au 11e étage. Donc, du coup, le mécanicien de l'ascenseur est monté avec nous dans l'ascenseur, et quand l'ascenseur est arrivé au 11e étage, il a fait arrêter brusquement l'ascenseur, et puis il a sorti de sa poche un levier, on appelle ça
un pied de biche, peut-être.
Voilà, un pied de biche, il a, pour ouvrir les portes. À 11e étage précis, ce qui a provoqué un petit mouvement de panique de la part du garde-corps de Jacques Toubon, qui était ministre de la francophonie à l'époque, je pense, parce qu'il a pensé que on pourrait essayer de l'attaquer. En fait, non, c'était juste pour ouvrir les portes de l'ascenseur, qui normalement ne s'ouvrait pas au 11e étage, mais seulement jusqu'au 10e.
Alors vous, Luca Nicolescu, vous avez été un des premiers journalistes de Radio Delta.
Oui, je venais de terminer ma première année d'études et le professeur de journalisme, on avait un professeur français, il s'appelle Marc Capel, et je salue s'il nous écoute. Marc Capel m'a dit, mais on cherchait tous à faire des stages, il m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas faire un stage dans cette petite radio francophone qui vient d'ouvrir et qui est juste à côté de l'université? Et est-ce que parce que j'étais francophone, est-ce que parce que j'étais paresseux et je voulais pas aller plus loin chercher un autre stage, je suis allé ici, j'ai été très bien accueilli. Et voilà que 23 ans après, je suis toujours là.
Alors, pendant que Luca Nicolescu débutait, radiophoniquement parlant, sa carrière professionnelle, vous, Matej Wichniak, vous étiez déjà un journaliste confirmé à RFI, mais à RFI en langue roumaine, mais à Paris.
Oui, parce que ça existait. RFI, avec ses rédactions, faisait partie à cette époque-là de cette constellation des radios qui, de l'étranger, transmettaient pour les pays de l'Europe de l'Est. À cette époque-là, il faut le dire, les Roumains s'informaient beaucoup grâce à la radio avant la chute du communisme. On écoutait Radio Free Europe, qui était donc la radio gérée par l'Amérique, les États-Unis, qui était basée à Munich. On écoutait BBC, on écoutait Voice of America, qui était basée à Washington, Radio France Internationale, bien sûr, Deutsche Welle. L'information venait par la radio et la radio, c'était vraiment, avait une importance gigantesque dans la vie de tous les jours. À Paris, en plus, il avait un bureau de Radio Free Europe pour la culture. Et ça donnait quelque chose de très spécial. Les Roumains, enfin, la classe culturelle et les intellectuels écoutaient tous les jours les informations qui venaient de Paris sur l'actualité culturelle française. On était, disons, à cette époque-là, sous l'oppression, mais bien informé malgré tout.
Mireille Brenne, vous vous souvenez de cette époque où on écoutait la radio en tendant l'oreille, en déployant une antenne?
Tout à fait. Je me souviens de mon père, à l'époque de Ceausescu, il avait sa petite radio et on écoutait des postes de radio plutôt interdits à l'époque, comme l'Europe Libre ou la Voix de l'Amérique. C'était là qu'on trouvait des informations qu'on pouvait pas avoir dans notre système socialiste. Donc j'ai ce souvenir de l'objet qui était très précieux. C'était pas juste un appareil, c'était l'outil qui nous ouvrait la porte. C'était un sésame, quoi. C'était quelque chose, la clé qui nous ouvrait la porte pour un univers qui autrement nous était interdit, c'est-à-dire l'univers occidental.
Et puis donc, Luca Nicolescu, là, on va brûler un peu les étapes. Radio Delta se développe, ça devient une radio plus qu'une radio étudiante, plus qu'une radio universitaire, ça devient une vraie radio, et RFI s'y intéresse de plus en plus.
Oui, c'est à la fin des années 90 qu'elle devient filiale de RFI, donc elle est absorbée par Radio France Internationale. C'est aussi à cette époque qu'on commence à se développer aussi dans le pays, parce qu'au début on était présent qu'à Bucarest et on avait une fréquence de faible puissance. Aujourd'hui nous sommes à Bucarest, mais bon, on nous entend vraiment partout, mais aussi dans d'autres grandes villes de Roumanie. Nous sommes à Cluj, à Iași, donc à Cluj dans l'ouest, à Iași dans le nord-est et à Craiova dans le sud, puis une autre fréquence en République de Moldavie, à Chișinău. Il y a aussi une soixantaine de radios partenaires qui reprennent RFI Roumanie. Et puis on sait aussi, on a grandi ou on a mûri avec la radio, ou la radio a mûri avec nous, parce qu'il y en a encore de ceux qui étaient au début qui travaillent encore à RFI, qui nous sommes devenus, je pense, une radio qui essaye d'être professionnelle, crédible, honnête, et qui essaye d'ouvrir la Roumanie vers les autres, vers l'autre. On est une radio où on privilégie les débats d'idées, les opinions parfois contradictoires, et toujours avec ce souci de mettre les éléments dans leur contexte, de ne pas parler que de la Roumanie, mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe ici, de toujours intégrer ça dans un contexte européen ou international.
Alors évidemment, et c'est un peu l'idée que RFI Romania a accompagné l'évolution de la Roumanie, mais les débuts, il y avait beaucoup d'effervescence, il y avait beaucoup d'hésitation. Les débuts, c'était comment ?
Non, il n'y avait pas. Il y avait beaucoup d'effervescence, pas beaucoup.
On avait envie de parler, parce que pendant quand même très très longtemps, la Roumanie, les Roumains parlaient peu.
C'était assez antenne libre. Beaucoup de gens qui voulaient s'exprimer pouvaient le faire. Et bon, parfois, tu avais les opinions, parfois des opinions farfelues qui s'exprimaient. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait, encore une fois, il y avait 4 radios à Bucarest, mais seulement 2 qu'on pouvait entendre sur les radios d'aujourd'hui, parce que les autres radios étaient des radios sur un système soviétique. C'est assez compliqué à expliquer. C'était pas les mêmes fréquences. Donc en fait, en gros, tu avais 2 radios à Bucarest que tu pouvais écouter. Donc bien sûr qu'il y avait la cohue pour que les gens s'expriment sur ces radios.
Matej Wicznek, avec le recul, qu'est-ce que ça a été cette expérience Radio Delta, puis Delta RFI, puis aujourd'hui RFI Romania?
Oui, c'est une construction dans la durée. Et je dirais que c'est une radio durable. Déjà 25 ans, c'est quelque chose. Et puis, on a toujours su s'adapter, s'améliorer, créer plus de dialogue entre Paris et Bucarest. Par exemple, depuis un certain nombre d'années, nous avons une émission en duplex. C'est-à-dire que à Bucarest, à 18h, et à Paris, donc il y a des journalistes qui parlent ensemble, qui évoquent l'actualité internationale, l'Europe, et bien sûr, on a le plaisir énorme, nous, à Paris, de présenter un tout petit peu, même plus, la France, tout ce qui tient de la culture, les événements culturels. Et ce dialogue-là enrichit énormément l'émission. Cette émission en duplex qu'on prépare tous les jours, et puis les modules qu'on prépare nous à Paris, qui passent le matin ici, assurent une sorte de complicité sur les ondes franco-roumaines. Et puis, je vous dis que je voyage beaucoup en Europe, en Roumanie. Quand j'entends des gens qui disent, des chauffeurs de taxi ou des intellectuels qui disent « Ah, on vous écoute ». On vous écoute parce qu'on a de la confiance en vous. Parce qu'il faut le dire aussi, le spectacle médiatique en Roumanie a évolué. Très souvent, il a viré vers le spectacle médiatique plus que vers l'information objective. Or, RFI Romania a su garder un ton, une tenue, une qualité dans la durée, c'est-à-dire c'est une radio qui impose, qui propose, qui s'ouvre. C'est ça le succès. C'est un succès qui s'est construit peu à peu. Maintenant, on a la confirmation que les cadres, ceux qui assument les décisions dans ce pays, nous écoutent vraiment et très souvent, qui est vraiment important.
Oana Kalen, qu'on n'a pas encore entendu, et Yulia Bokayas, est-ce que finalement, on peut dire que RFI Romania a accompagné ce changement roumanique aujourd'hui? La radio qu'on écoute ici, elle est de la même qualité que celle qu'on peut écouter ailleurs, et par exemple en France, et que de la même façon on vit de plus en plus à Bucarest comme on vit à Paris. Qui veut répondre, Yulia?
Oui, je peux dire comment j'ai commencé moi à écouter RFI, j'ai évolué avec. J'étais il y a 10 ans quand j'ai commencé l'université polytechnique, et c'était Delta RFI en fait à cette époque. Et on voulait juste promouvoir ce qu'on faisait dans une association francophone de polytechnique. Et on a dit quelle serait la radio qui pourrait transmettre l'information sur l'importance de faire des stages, de travailler et d'étudier le français dans les universités. Et comme ça, on est allé la première fois et je suis allée visiter, je pense, quand ils avaient le siège à Piazza Presse Libere. Delta RFI, et c'était mon premier contact. Et depuis, j'ai commencé à écouter RFI, mais dans les résidences universitaires, on n'avait pas trop la radio, donc on avait plutôt des ordinateurs et on écoutait en ligne Radio RFI. Et même si j'avais des collègues qui ne parlaient pas français dans ma chambre, elles s'étaient déjà habituées à écouter, et je pense que certaines d'entre elles avaient déjà commencé à comprendre.
Est-ce que RFI Romania est une radio normale dans un pays de plus en plus normal?
C'est plus qu'une radio normale. Je pense que c'est la radio qui fait que les radios soient normales en Roumanie, en fait. Parce que je crois que c'est très important dans un pays qui, il y a 25 ans, se débarrassait d'un régime communiste, d'une dictature où les gens ne pouvaient pas s'exprimer. Comme disait Luca Niculescu avant, évidemment, on se retrouve avec des gens qui ont envie de parler là, après la chute de la dictature. Et il y en a qui disaient plein de bêtises. Donc, bon, c'est bien
mais
d'être libre,
disait,
mais
la
il faut être
libre,
discipliné
oui.
aussi pour faire de la qualité. Et le fait d'avoir quand même une radio de qualité, comme c'était le cas de Delta et puis de RFI Roumanie, ça a mis de la pression en quelque sorte sur les autres radios. Si aujourd'hui on a des médias de qualité en Roumanie, c'est dû aussi à RFI.
Oana, vous vouliez rajouter quelque chose?
En ce qui me concerne, je considère RFI étant une des radios les plus sérieuses, disons, dans le sens où on vient avec un discours qui change beaucoup les habitudes, les pratiques des radios de Roumanie. Comme M. Vichniak avait dit déjà, on ne se penche pas tout le temps sur l'objectivité et il y a de la manipulation et des pratiques qui ne sont pas tout à fait déontologiques. On n'entre pas dans le sujet, on veut être plutôt positif et montrer les bonnes choses en ce sens. Mais je voulais juste dire que RFI vient avec un discours qui nous approche de la normalité au niveau des médias, de la normalité au niveau des discours culturels, des débats en général, ce qui contribue beaucoup au changement de mentalité au long terme.
Mathieu Vichniak, une radio normale dans un pays normal?
Oui, on a essayé d'introduire à RFI quelque chose que je peux dire existe en France, une sorte de courtoisie dans le débat. Même lorsqu'on se contredit...
Ce qui n'est pas le cas dans Roumanie.
C'est un peu plus violent quand même. Or, ce ton-là, qui est un peu apaisé, malgré le fait qu'on s'ouvre pour tous les avis, c'est, se bagarrer d'une manière courtoise, c'est intéressant. Bon, crier, se déclarer le gourou du savoir, c'est autre chose. Ça, c'est déjà une tonalité. Et puis, il y a quelque chose qui est très, très important. Nous défendons à RFI à la fois la langue française, la francophonie, les ponts culturels entre la France et la Roumanie, mais aussi la langue roumaine. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « vous parlez un roumain vraiment admirable à RFI ». Parce que cette pression que nous vivons en Roumanie, c'est aussi une pression linguistique, avec des barbarismes qui arrivent d'ailleurs, avec des emprunts qui sont parfois inutiles. Donc la langue roumaine est très maltraitée depuis 25 ans. Or, je pense que nous avons à RFI aussi une sorte de dignité de la défense de la langue roumaine.
Mireille Brahn.
Je voulais pas qu'on termine ce thème avant de dire que je me souviens de début des années 90, ma première visite à Delta RFI. En effet, c'est au 11e étage à la cité universitaire, sans ascenseur. J'ai pris l'escalier, je me suis dit, mais ils sont fous ces types. Et ce que je voulais dire, c'est que je crois que dans un pays comme la Roumanie, qui à l'époque, là, au début des années 90, après la chute de la dictature, tout est à refaire, y compris le paysage médiatique qui avant n'existait pas. On avait juste une machine de propagande du Parti communiste. Je crois que ça a été pour les gens comme Luca Niculescu qui ont participé à cette aventure quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que peut-être même en France on a du mal à retrouver. Cette passion des débuts, cette passion de mettre en place quelque chose et de donner quelque chose, de donner vie à quelque chose qu'on n'avait pas avant, quoi. Reconstruire tout un monde, parce qu'on était en train de construire une radio, mais c'était plus qu'une radio derrière. Et je me souviens de toute cette énergie qu'on retrouve même aujourd'hui encore en Roumanie. Évidemment, on fait beaucoup de bêtises aussi quand on est dans ces situations-là, mais en même temps, le bon côté, le côté plein du vert, c'est que c'est un espace plein de créativité. Et je pense que les gens de RFI, comme Luca Niculescu, ont su jouer sur cette créativité-là.
Carrefour de l'Europe à Bucarest, à l'occasion des 25 ans de RFI Romania, on va faire une petite pause sur RFI, la radio de la Roumanie, de l'Europe et du monde. À tout de suite.
Apel spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Bucarest à l'occasion des 25 ans de RFI Romania, la filiale de RFI en langue roumaine. Et en 25 ans, la Roumanie a beaucoup changé. Et avec nos invités, nous allons parler de cette métamorphose de la Roumanie et des Roumains. Je vous les représente rapidement. Luca Niculescu, rédacteur en chef de RFI Romania. Mireille Bran, journaliste et écrivain. Son dernier livre, Les Roumains, est paru aux ateliers Henri Dougier. Matei Vichniec, journaliste et dramaturge. Vos pièces, Matei, sont jouées presque partout dans le monde, en Roumanie, en France, au Japon et même au-delà. Oana Kalen, elle était il y a quelque temps encore étudiante en sciences sociales et elle a 25 ans, l'âge de RFI Romania. Et puis Yulia Borcaias qui travaille à la chambre de commerce franco-roumaine. Alors nous sommes à Lipscan, dans le centre historique de Bucarest, un quartier qui à l'image de la capitale roumaine a beaucoup changé en 25 ans. Je vous propose une petite balade dans les rues de Lipscan en compagnie de Jonas Mercier.
Une dizaine de rues piétonnes en plein centre de Bucarest, bordées de vieux immeubles à l'architecture classique. Le quartier de Lipscan s'est fait une réputation de haut lieu de la vie nocturne. Ici, on compte des centaines de bars et restaurants aux devantures soignées. Tout est flambant neuf. Tout, pas vraiment, car il arrive de dénicher entre deux bistrots un petit magasin communiste à l'enseigne poussiéreuse. Silhouetta, la silhouette, est l'un d'entre eux. La vitrine de ce magasin de vêtements est cachée par les robes, chapeaux et peignoirs qui sont accrochés pêle-mêle sur des châssis de fortune pour attirer les clients. Il faut se faire de la place pour entrer. À l'intérieur, Elisabetta, Johanna et Anna, la soixantaine coquette, elles sont sans doute les doyennes du quartier. Elles travaillent toutes depuis 40 ans dans ce magasin qui appartient à une coopérative d'artisans qui parvient tant bien que mal à résister.
Lipscan înainte era un centru comercial, tot timpul se făcea numai comerț.
Lipscan este un centru comercial. Ici, on venait passer commande et l'événement était fabriqué sur place. On trouvait tout pour s'habiller, on vendait beaucoup, on n'arrivait même pas à répondre à toutes les commandes.
N-aveai mâini ca să lucrezi cât...
Oricum te descurci greu, pentru că lumea din ce în ce vrea mai luxos.
C'est difficile aujourd'hui. Les gens veulent des magasins de luxe où les vêtements sont mieux présentés. Nous n'attirons plus que les générations du troisième âge. Les jeunes, eux, vont s'habiller dans les centres commerciaux, même si nous proposons aussi des habits jolis et élégants. Mais ils préfèrent les centres commerciaux. Cette concurrence nous rend la vie dure et nous empêche de prospérer.
Au fond de la boutique, un petit couloir où s'entassent trois cabines d'essayage où le temps semble s'être arrêté. Les rideaux de velours vert et les grands miroirs usés renvoient dans les années 1970. Derrière encore, on arrive dans un petit atelier éclairé par des néons, beaucoup de tissus, deux machines à coudre et Anna qui s'occupe de faire un ourlet.
Depuis que j'ai été embauchée dans ce magasin il y a 40 ans, rien n'a changé. Le mobilier est identique, mais je ne me plains pas. On a eu beaucoup de travail, on gagnait bien notre vie.
À 8 heures, la petite boutique ferme pendant que les bars de Lipscan ouvrent leurs portes. Et petit à petit, toute la jeunesse bucarestoise afflue. Les rues deviennent étroites tant il y a du monde. Les serveurs alpaguent les potentiels clients. Les musiques se mélangent, c'est à qui mettra le plus fort. Lipscan se réveille.
Mireille Bran, c'est un quartier qui a beaucoup évolué et qui a failli disparaître, le quartier de Lipscan.
Tout à fait. En fait, ce quartier, on peut dire que c'est l'image de la Roumanie, finalement. Parce que je me souviens, il y a quelques années seulement, je me promenais dans ce coin, tout était en ruine. Il faut vraiment s'imaginer tout ça en ruine. C'était des ruines. Et là, on voit un quartier brillant. Les gens se marchent sur les pieds pour venir ici. Mais pour Bucarest, c'est devenu déjà trop touristique. Tout le monde, c'est l'endroit où aller, quoi.
C'est un peu le Montmartre parisien.
Exactement. Et je disais que c'est un peu l'image du pays parce que longtemps on a eu l'impression que la Roumanie, voilà, c'est un pays qui bouge pas, quoi. Un pays qui évolue peut-être trop lentement et qu'on n'a plus le temps d'attendre, quoi. Et puis ce qu'on voit ces dernières années, au moins, on voit vraiment des évolutions spectaculaires. C'est un pays qui a, à mon avis, énormément évolué ces dernières années.
Oana Kalen, l'évolution de la Roumanie, s'il fallait d'un mot la décrire, qu'est-ce que vous diriez?
C'est très difficile de synthétiser tout le temps ce qu'on a dans la tête, mais en tout cas, je pense que la Roumanie, comme beaucoup de pays des Balkans, mais c'est mon pays, je le connais le mieux. C'est un mélange fascinant pour moi, mais pour les étrangers, d'autant plus, j'ai discuté avec beaucoup des amis qui sont des étrangers et qui disent, et c'est mon opinion aussi, que c'est un mélange fascinant de traces, des réminiscences communistes et d'influences culturelles très, très, très actuelles, contemporaines, des influences prises par l'Occident, voilà. Et donc, je pense que l'Ipscan peut représenter ce mélange. C'est comme un emblème de Bucarest et aussi de la Roumanie. Mais un seul mot, je ne pourrais pas trouver. Métamorphose, c'est un bon mot, mais syncrétisme, je ne saurais pas dire.
Julia, est-ce que ce quartier de l'Ipscan est révélateur, comme vient de le dire Mireille Brand, d'un changement en Roumanie? Il était en ruine, il renaît de ses cendres.
Oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai vu en fait ce changement, étant ici depuis plus de 10 ans à Bucarest. Je l'ai vu quand je suis venue la toute première fois en 95, et c'était un paysage vraiment gris. On ne savait pas où c'était le centre, le vieux centre de Bucarest. Après, je suis venue pour l'université et tout était gris. Personne ne venait dans ce quartier. Après, il est passé à l'étape de ruine. Ils ont commencé à reconstruire les bâtiments, à les rénover. Et là, en fait, c'est l'endroit recherché par tout le monde. C'est un carrefour. Et quand on voit, comme Mireille et Oana disaient, tout le monde qui vient de l'étranger souhaite venir ici. Ils trouvent que c'est le cœur, au fait, de Bucarest.
Alors, non loin d'ici, s'est déroulé un drame le 30 octobre dernier qui a secoué la Roumanie et bien au-delà, un incendie dans une boîte de nuit, une salle de concert. Rien n'était aux normes. Il y a, à l'heure où nous parlons, 56 morts. Le bilan évolue encore. C'est aussi, je ne sais pas qui va vouloir rebondir, peut-être Mireille Brand, un drame révélateur de la Roumanie d'aujourd'hui, à la fois effervescente et en même temps sans règles, corrompue, avec un personnel politique un peu défaillant. Qui veut rebondir, Mireille Brand?
Je crois que ce qui s'est passé, en fait, cet incendie dans un club de Bucarest, c'est un détonateur de quelque chose qui était beaucoup plus profond. Il faut rappeler quand même que l'effet, on a un incendie, on a beaucoup de victimes, évidemment. Aujourd'hui, on a 56 victimes. Des gens qui sont morts dans cet incendie, et puis des manifestations dans la rue, et puis très vite, un gouvernement qui tombe. J'ai rarement vu dans le monde des gouvernements qui tombent à cause d'un incendie. Je veux dire que finalement, franchement, pour nous les journalistes, c'est dans la catégorie des faits divers. Dramatique, tragique, mais c'est un fait divers. Il y a quelque chose qui fait que cet incendie n'est plus dans la catégorie faits divers. C'est un détonateur, parce que derrière, on a le ras-le-bol de la société roumaine, de la corruption, de tout ce qui a amené l'incendie, en fait, dans l'info, quoi. Je veux dire que si cet incendie a eu lieu, c'est parce que on n'a pas respecté nos sécurités, parce qu'on n'a pas vérifié, parce que il y a des fonctionnaires qui se font sucrer au passage et ferment les yeux sur les normes de sécurité, ainsi de suite. Donc c'est l'image de la Roumanie dont cette jeune génération ne veut plus. Les jeunes roumains qui sont sortis dans la rue, il y a eu quand même des dizaines de milliers de jeunes qui sont sortis dans la rue de Bucarest, et ils ont dit non, ça suffit. On ne veut plus de ce pays. Ils ne veulent plus du pays de leurs parents. Et je signe qu'ils ont raison. Ils ont fait tomber un gouvernement, et ça, ça fait leur force.
Oana Kalen, vous étiez dans la rue. Il y a eu quelques dizaines de milliers de Roumains, de Bucarest 3 dans les rues. Une quarantaine de mille, hein, Luca Niculescu, c'est à peu près ça. Ce qui est pour la Roumanie et pour Bucarest, beaucoup.
Il faut dire que pour Bucarest, c'est énorme. On n'avait pas eu autant de monde dans la rue depuis la chute de Ceaușescu, depuis l'année qui a suivi la chute de Ceaușescu en 1990.
Donc c'était une étape, un moment important dans l'histoire contemporaine de la Roumanie, Luca Niculescu.
Oui, c'était très, très important. Et les gens qui sont morts dans ce club, c'était des jeunes dans lesquels beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître. C'était des jeunes actifs, ils venaient de rentrer pour la plupart dans la vie active.
Ils avaient la vingtaine, la trentaine.
Voilà, entre 25 ans et 40 ans, je dirais. Donc, il y avait des architectes, des informaticiens, des gens qui travaillent dans la publicité, quelques journalistes qui sont morts là-bas dans cet incendie. Et ce qui est intéressant, c'est que la chanson, l'une des chansons jouées par le groupe qui était ce soir, c'est une chanson qui s'appelait « Le jour où nous allons mourir ». Et en fait, les paroles de cette chanson sont assez émouvantes, parce que le message est le suivant: nous mourrons le jour où nous nous résignons. Donc il ne faut pas se résigner. Et l'une des strophes, c'était « Abat votre vilaine corruption ». Donc c'est un message qui a été repris par les gens qui sont descendus dans la rue. Et peut-être, on ne sait pas, peut-être cette chanson va devenir l'hymne de leur génération.
Matej Wichniak, vous vouliez intervenir.
Parce qu'en France, on a eu un incendie comme ça en 81, à côté du Grenoble. Il y a eu 200 victimes à cette époque-là. Ça a traumatisé la France, mais le gouvernement est resté sur place et a pris des mesures drastiques pour sécuriser ce type d'activité, les discothèques, les lieux publics. Et depuis, la France a imposé des règles très, très sérieuses. Le problème en Roumanie, c'est qu'on a changé le gouvernement, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les règles sont déjà adoptées et imposées de manière sérieuse pour que des lieux publics soient vraiment sécurisés totalement. Voilà un problème. Et puis il y a encore un problème en Roumanie. On a eu la liberté, on a eu la démocratie, mais le sens de la liberté, c'est justement de transformer la liberté en civilisation. Or, c'est pour ça que les Roumains pensent que 25 ans de liberté qui ne sont pas devenus une forme de civilisation, de civilité, c'est quand même trop lent. Voilà encore une manière de penser cet événement tragique.
Julia Marcaillas, vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Matej Wiśniewski, à savoir, voilà, 25 ans de liberté, 25 ans de changement, mais quand même, finalement, le mal résiduel de la Roumanie, la corruption.
Oui, c'est vrai. Je me confronte beaucoup avec des situations quand je rencontre des sociétés françaises, quand je vais en France, et quand ils me demandent comment ça se passe en Roumanie avec la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire, merge și așa? C'est le système le plus rencontré dans tous les bouquins quand on parle de la Roumanie. C'est le système merge și așa. Et ils me demandent qu'est-ce que ça veut dire. Et je leur dis, en général, j'essaie de leur expliquer que les Roumains, ils sont flexibles, qu'ils s'adaptent, qu'ils sont débrouillards. Mais après, me dire qu'est-ce que ça veut dire débrouillard, ça c'est en fait c'est débrouillard dans un sens positif où ils ne font pas bien les choses, mais afin de toucher un résultat, un bon résultat. Et je pense que c'est ce que s'est passé ici avec le drame de collectif, c'est que en fait il y a les institutions n'ont pas imposé les lois qui existaient. Et c'est ce qui a fait que, voilà, même si nous on est conscient de ce que c'est bien et on se débrouille de faire les choses, on ne tient pas compte de la sécurité et en fait de l'humanité, de tout ce qui est important, c'est l'humain.
Mireille Brahm.
Je pense qu'au niveau symbolique, c'est le moment clé de l'histoire de la Roumanie, parce que c'est mon impression que grâce à cet événement, que la révolution anticommuniste qu'on a démarrée il y a un quart de siècle s'accomplit. Parce que ce dernier quart de siècle, cette transition a été assez chaotique. On a quand même un système résiduel, un communisme résiduel, comme on dit, qui se traduit par une corruption endémique qui caractérise la Roumanie, malheureusement. Et derrière, on a une génération. Ma génération a accepté cette forme de corruption. La génération, mon fils, on ne l'accepte plus. Il a 15 ans. Il veut plus de ça. Donc, il y a un changement profond. Et je pense, au niveau symbolique, il y a l'incendie qui brûle, quoi. Ça brûle quelque chose dont on a envie de se débarrasser.
On a pu lire qu'il y a eu deux révolutions en Roumanie, celle de décembre 89, avec évidemment la chute de Nicolae Ceaușescu, et puis l'amorce de quelque chose qui pourrait être une révolution, une autre révolution, à partir de cet incendie. Vous êtes d'accord avec cette idée, Oana Kalen?
Oui, je suis d'accord. Je voulais juste continuer en disant qu'on est en train même d'organiser via les Facebook, on peut dire, je pense, le nom
des réseaux sociaux.
Des réseaux sociaux, voilà. Donc on est en train au niveau national d'organiser une autre révolution qui est prévue pour le jour national en Roumanie le 1er décembre, voilà. On a prévu ça, il y a sur les réseaux sociaux déjà des gens inscrits et en fait je m'attends vraiment à des manifestations très très puissantes.
Luca Nicolescu, c'est qui organise cette manifestation, des manifestations spontanées?
C'est une manifestation organisée sur les réseaux sociaux, un peu comme la manifestation qui a mené à la chute du gouvernement de Victor Ponta, trois jours après la tragédie du club collectif. Des jeunes se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, des jeunes qui n'avaient pas de leader, d'ailleurs ils n'en ont toujours pas, et qui ont fait descendre dans la rue 40 000 personnes à Bucarest et encore 40 000 dans d'autres villes du pays.
Un peu à la mode des indignés espagnols, des mouvements 5 étoiles en Italie, une spontanéité, une reprise d'un mouvement par les citoyens de la politique.
Voilà, c'est un peu ça. Sauf que pour l'instant, ça reste là. Ils sont unis dans la protestation. Pour l'instant, on ne voit pas quelque chose qui est émergé de leur part. Bon, il y a un changement politique important en Roumanie dû à ces manifestations, mais il n'y a pas encore, on ne voit pas le début d'une transformation dans un mouvement qu'il soit de société ou politique.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe est à Bucarest pour les 25 ans de RFI Romania. Bucarest, comme la Roumanie, produit assez peu d'images dans l'imaginaire collectif, mais lorsque l'on associe Bucarest à un bâtiment, c'est toujours le fameux palais de Nicolae Ceaușescu, le plus grand bâtiment jamais construit en Europe. Jonas Mercier.
Disproportionné, c'est le premier mot qui vient en voyant l'immense palais construit par Nicolae Ceaușescu. Un peu excentré du centre-ville, il trône sur une petite colline, ce qui le rend encore plus imposant. Avec ses quatre ailes qui se détachent du corps central, il semble particulièrement bien ancré au sol. La pierre claire avec laquelle il a été construit lui donne une couleur un peu jaune. Au-dessus de l'entrée monumentale, un balcon. Nicolae Ceaușescu devait y faire ses discours. Il aurait paru ridiculement petit. Face à lui s'ouvre un large et long boulevard. Les immeubles qui le longent sont parfaitement symétriques. À la chute du régime communiste en 1989, il a été renommé Palais du Parlement. Il abrite depuis le Sénat et la Chambre des députés. Remus Cernea est l'un des rares députés indépendants.
Din nefericire de la un symbole al totalitarismului s-a transformat.
Malheureusement, d'un symbole du totalitarisme, il s'est transformé en symbole de l'échec de la démocratie. La prestation médiocre des parlementaires a fait que le mécontentement des Roumains se trouve particulièrement élevé. Aujourd'hui, la confiance dans l'institution parlementaire est de seulement
10%.
Intouchables, ces parlementaires ? C'est presque vrai. Le palais du Parlement dispose de vastes jardins, mais ils sont inaccessibles. Une clôture de béton barricade encore l'édifice. Pour le contourner, il faut compter plus d'une heure de marche.
Asta e mentalitatea multor politicieni de astăzi. E tot o mentalitate.
La mentalité des politiques roumains d'aujourd'hui est restée totalitaire. Ils votent des lois qui leur permettent de se maintenir au pouvoir. Les élections parlementaires sont un simulacre puisque ce sont toujours les mêmes qui se présentent, même si le nom de leur parti a changé. Le drame de ce bâtiment est qu'il a des proportions trop grandes pour les petits esprits qui l'habitent.
Le palais du Parlement est aujourd'hui l'un des symboles touristiques de la capitale roumaine. Une demi-douzaine de visites guidées sont organisées tous les jours. On y parle beaucoup de Nicolae Ceaușescu et peu de démocratie.
Le Parlement roumain, l'ancien palais de Ceaușescu, ce député disait quelque chose d'assez terrible pour le personnel politique, des proportions trop grandes de ce bâtiment pour les petits esprits qui l'habitent, Matei Vișniac. Est-ce que la classe politique roumaine est si désespérante que ça ?
Déjà, le bâtiment, pour moi, c'est comme un monstre qui, à cette époque-là, au moment de la construction, a affamé la Roumanie, les Roumains, les Bucarestois ont avalé de la poussière pendant des années parce que ce palais se construisait. Mais à la fois, ce monstre existe, il faut le dompter. C'est-à-dire, il faut vivre avec lui, il faut l'humaniser. Donc, à ce moment, c'est le monument le plus visité, le plus, à Bucarest. Et je suis content que dans ce bâtiment, il y a aussi un musée d'art moderne. Il abrite notre musée. D'ailleurs, il y a des espaces qui sont consacrés à la culture. Donc, il faut assumer, assimiler, enfin, les erreurs du passé et, si possible, les transformer en quelque chose de viable. Donc, je suis assez attaché, finalement, à ce monument, à ce bâtiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts au moment où on le construisait. Il y a beaucoup de gens qui ont été humiliés, écrasés au moment de sa construction. Donc il faut se venger en quelque sorte par l'amour. Et voilà pourquoi pour moi c'est plutôt un monument à dompter, à transformer encore, comme je disais tout à l'heure, en culture, en civilisation, en geste.
Alors, Matei, vous avez botté en touche à la question sur le personnel politique. Je vais reposer cette question. Est-ce que le personnel politique roumain est si désespérant que ça, Yulia?
En fait, je pense que c'est assez dangereux de généraliser. Mais en tout cas, si on demande quelqu'un dans la rue concernant la qualité de la classe politique, je pense que les réactions seraient plutôt réservées ou bien plutôt illustreraient plutôt du mécontentement.
Mireille Brann.
On a certainement affaire à un divorce entre la classe politique et la société roumaine, c'est évident. Aujourd'hui, depuis une semaine, on a un gouvernement technocrate justement pour cette raison, parce que les gens sont sortis dans la rue pour demander une réforme radicale du système politique. Ils n'ont pas demandé que la chute du gouvernement, ce qu'on a eu, hein, le gouvernement de Victor Ponta est tombé. Aujourd'hui, on a un gouvernement technocrate, justement parce que les gens demandaient une autre solution que la classe politique actuelle. Les gens sont très déçus par cette classe politique. Et je pense que la classe politique, enfin les hommes politiques roumains, commencent un tout petit peu à comprendre ce qui leur arrive, mais je pense qu'ils sont loin d'avoir compris ce qui est en train de se passer. Comme disait Oana tout à l'heure, je pense qu'au 1er décembre, jour national, jour de la fête nationale de Roumanie, c'est le 14 juillet roumain, il y aura beaucoup de gens dans la rue. Et je pense que sur les réseaux de socialisation, ils vont arriver à mobiliser énormément de gens. Je vais faire une petite parenthèse. Nous, les journalistes, on était un peu roi de l'info. Mais c'est un peu fini. Parce qu'un événement comme cet incendie, les morts et tout ça, avant, ça aurait dû passer par les journalistes. Avant que les gens regardent ce qui s'est passé, l'info aurait passé par nous. Mais aujourd'hui, ils ont un téléphone, ils prennent une photo, ils mettent la photo tout de suite, instantanément sur Facebook ou autre réseau. Donc du coup, l'information circule à une vitesse hallucinante. Ils ont réussi quand même à mobiliser des dizaines de milliers de gens qui sont sortis très vite dans la rue. Donc on est en train de passer à autre chose. Et je pense que nous aussi, les journalistes, on a des choses à apprendre dans tout ce qui se passe et à se reconnecter un peu avec l'évolution du monde dans lequel on vit.
Alors, le Premier ministre, le nouveau s'appelle, on a quand même donné son nom, Dacian Ciolo, je ne sais pas si je prononce correctement son nom. C'est un technocrate, sa marge de manœuvre est étroite.
Oui, parce qu'il doit négocier quand même avec cette classe politique qui est au Parlement et qui probablement essaiera de ne pas trop l'aider, pour utiliser un euphémisme, parce qu'il a tout intérêt à ce que les Roumains reviennent à l'idée que c'est la politique qui peut le sauver et pas un gouvernement de techniciens. Il faut dire aussi, Daniel, que la classe politique roumaine elle est sous une double pression. C'est sûr, la pression des gens qui sont descendus dans la rue, mais il y a aussi la pression du parquet anticorruption qui n'arrête pas
le fameux DNA.
Voilà, le fameux ou la fameuse DNA, Direction Nationale Anticorruption, qui n'arrête pas de travailler. Et tous les jours, on entend qu'un nouvel homme politique a été accusé, placé en garde à vue. Nous sommes à Bucarest. Sur les 7 maires, le maire général et les maires d'arrondissement, 6 maires d'arrondissement et le maire général, il y en a 4 qui ont des problèmes avec la justice, dont certains sont déjà passés par la case prison. Donc il faut voir un peu l'ampleur de cette lutte contre la corruption.
C'est évidemment un paradoxe incroyable en Roumanie où il y a ce parquet anticorruption très efficace. On peut rappeler par exemple qu'un ancien Premier ministre roumain, Adrian Năstase, a fait 2 années de prison, ce qui est, je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas c'est assez rare. Et en même temps, cette corruption reste endémique. Comment ça s'explique?
Moi, je voulais dire que je n'ai pas des mots assez critiques pour décrire cette classe politique qui a trahi sa mission, qui a dévalorisé la parole. Moi, quand j'entends parfois les discours des hommes politiques, je me dis, mais il n'y a que la grammaire qui est valable dans ce qu'ils disent. Pour le reste, c'est nul, c'est sans valeur. Et ça, c'est vraiment grave en ce moment. Mais le signal est donné. Je pense que cette classe politique entre dans une période de quarantaine parce qu'il faut recommencer. De zéro à former des hommes politiques. De toute façon, le message est passé. J'espère que les contre-pouvoirs en Roumanie, comme c'est la presse, comme c'est, je sais pas, les associations, l'opinion publique, une forme de contre-pouvoir, c'est aussi les débats sur l'Internet, les réseaux sociaux, Facebook. Par exemple, sur Facebook, j'ai vu les vrais débats après l'incendie. Les gens disaient des choses extraordinaires que parfois je ne trouvais pas dans la presse, des analyses si intéressantes que les analyses spontanées diffusées sur Facebook. Cette classe politique qui a vieilli, il faut en ce moment la rafraîchir et remplacer individuellement ces gens-là.
Michael Brun, de ce débat, on retient qu'il y a beaucoup de vitalité en Roumanie, que le pays qui, il y a 25 ans, a vécu sous Nicolae Ceaușescu, et bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais c'était terrible quand même de vivre sous un dictateur pareil. Finalement, il s'est normalisé. Il y a les mêmes indignés en Roumanie qu'il y a en Italie ou en Espagne. Les réseaux sociaux fonctionnent bien. La démocratie fonctionne quand même pas si mal que ça. Il y a des élections, des changements, etc. La Roumanie est un pays normal, Mireille Brun, finalement?
Tout à fait. C'est un pays qui retrouve sa normalité. C'est un pays qui retrouve sa vitalité, sa créativité. On a cette image de la Roumanie corrompue, la corruption, évidemment, c'est une réalité. C'est pour ça que les gens sont sortis dans la rue et ils ont fait tomber un gouvernement. Mais en même temps, il faut rappeler quand même que ces 4 dernières années, d'après mes souvenirs, plus de 3000 personnes publiques ont été arrêtées par le parquet national anticorruption.
Et on parle une quinzaine d'anciens ministres.
D'anciens ministres, des députés, des maires, des hauts fonctionnaires publics. Enfin, je veux dire, c'est un peu la crème qu'on retrouve dans les prisons. Aujourd'hui, en Roumanie, on passe pas une semaine sans voir une grosse tête à la télé qui passe devant les procureurs. Ça n'arrête pas. C'est déjà devenu une habitude. Et puis, j'aimerais dire aussi qu'on a beaucoup de potentiel dans ce pays. Il faut pas se prendre comme baromètre la classe politique actuelle. On a cette classe politique. Mais on a derrière cette classe politique des gens extraordinaires. Je sillonne beaucoup ce pays pour faire mes reportages. Je peux vous dire que dans tous les domaines, je trouve des gens extraordinaires. Il y a dans la jeune génération roumaine une créativité et des gens formidables qui font des choses extraordinaires. Le problème, c'est que ces gens-là, on les retrouve pas en politique. Parce qu'ils considèrent que la politique, c'est quelque chose de pourri. Ce qui change aujourd'hui avec cet incendie, c'est que les gens ont compris qu'ils ont cette force de changer les choses. Et je pense qu'à partir de là, les gens vont avoir envie de se mettre en politique. Et ce qu'on voit sur les réseaux, évidemment, comme disait Mathieu Vigenec tout à l'heure, c'est plus intéressant que ce qu'on voit dans les médias, chez nous, chez les journalistes. On voit des débats extraordinaires, on voit des gens extraordinaires qui surgissent presque de nulle part. Et c'est ces gens-là qui, demain, vont occuper la scène politique roumaine. Donc, pour l'avenir de la Roumanie, personnellement, moi, je suis très confiant.
Alors, la Roumanie, on n'a pas le temps d'aborder ce sujet, était longtemps un grand pays d'immigration. Il y a environ 3 millions de Roumains qui vivent à l'étranger, beaucoup en Italie, un peu en France aussi, en Espagne également. Quand on a 25 ans aujourd'hui, comme vous, on a plutôt envie de quitter ce pays ou on a plutôt envie de rester et puis de le construire, ou en tout cas de le reconstruire?
Je pense qu'en vous disant que le 1er décembre, je serai à Alba Iulia, je pense que c'est la réponse à votre question. En fait, je n'envisage pas quitter le pays, ce qui n'exclut pas la possibilité d'avoir des expériences ailleurs. Mais de point de vue professionnel, je suis contente de rester ici et de construire quelque chose ici. D'autant plus qu'on a besoin dans beaucoup de domaines des gens qui puissent se dédier à une telle profession. Je pense qu'on a beaucoup besoin de gens qui aient cette force d'investir, même si les conditions ne sont pas comparables avec celles qui sont en Europe occidentale. Et pour moi, ça s'appelle noblesse. C'est une noblesse, disons, intérieure de faire ce choix.
Merci pour cette pensée très optimiste pour la Roumanie. Mulțumesc à tous les cinq. Merci d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Mireille Brand, je rappelle votre dernier livre, Les Roumains, paru aux éditions Atelier Henri Dougier. Technique à Bucarest, Mette Chablaoui. À Paris, Nicolas Benita. Merci aux équipes de RFI Romania qui nous ont merveilleusement accueillis et qui nous ont permis de réaliser cette émission. Pour tout savoir sur nos invités, RFI.fr, Carrefour de l'Europe. Sur la page de l'émission, bien sûr, le podcast et la possibilité de réécouter ce Carrefour et tous les autres. Sans oublier, bien sûr, on en a beaucoup parlé, les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Ezeskel, où que vous soyez, à Bucarest, à Paris, ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.